Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. La mort d'un des sportifs français les plus populaires, Raymond Poulidor. Il avait 83 ans et ces dernières années encore, quand il passait sur les étapes du Tour, c'était la cohue, surtout au Puy-de-Dôme.
Vous pouvez faire une petite signature, monsieur Poulidor, sous le maillot, s'il vous plaît?
Quand je vais retourner au travail, je vais dire que j'ai vu Poupou.
Raymond, une dernière.
On va pas le lâcher comme ça.
Vous avez pris la photo? Merci beaucoup, monsieur Poulidor.
Raymond Poulidor, la popularité, les deuxièmes places, mais aussi les victoires, le duel avec Anquetil, les souvenirs, la longévité. Nous en parlerons longuement avec Jérôme Cadet, avec Bernard Thévenet, notre invité, et nos confrères de France Bleu, pays d'Auvergne. L'utilisation de la voiture est en baisse marquée en région parisienne, moins 5% en 10 ans. Paris, mais aussi petite et grande couronne. Parallèlement, l'usage des transports en commun progresse. C'est une étude d'Île-de-France Mobilité. Nous la détaillerons avec la directrice de cette autorité, qui est notre invitée. L'université de Lyon 2 fermée ce matin, nouvelles actions de blocage après le geste désespéré d'un étudiant qui s'est immolé par le feu pour dénoncer la précarité dans laquelle il vit. Des manifestations hier ont dégénéré en violence à Lyon, Lille et Paris. La situation des étudiants se dégrade-t-elle? Nous verrons cela avec Maxime Debs. Dans ce journal encore, la répression des opposants et manifestants est féroce en Égypte. Notre correspondant Martin Roux a recueilli des témoignages saisissants. De plus en plus de violence à Hong Kong et puis la demande de remise en liberté de Patrick Balkany est rejetée par la cour d'appel de Paris. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
C'est plutôt une surprise.
C'est une surprise car cette même cour d'appel avait répondu oui à la première demande de remise en liberté du maire de Levallois-Perret. Mais elle craint cette fois que Patrick Balkany ne fasse pression sur les témoins du procès en appel.
À tout à l'heure pour les détails. Nous sommes mercredi. Eva Bétan viendra nous parler des sorties cinéma, évidemment. Et puis à 13h30, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La transition écologique en région aujourd'hui.
Oui, de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on évoque la transition? Eh bien, comment est né ce mouvement? Comment s'engager concrètement? On en parle avec l'enseignant Grégory Deville, auquel vous pouvez poser toutes vos questions dès maintenant.
Au 01 45 24 7000, questions maintenant. L'émission à 13h30. Avant cela, nous écouterons un premier extrait du nouvel album de Renaud, Les Mômes et les Enfants d'abord. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Raymond Poulidor est encore arrivé deuxième, 32 ans après Jacques Anquetil. Poupou vient de mourir, il avait 83 ans, l'éternel second du cyclisme français et pourtant quel palmarès, mais surtout la popularité en or massif. Il était né l'année du Front Populaire en 36, le 15 avril, dans un hameau de la Creuse, fils de métayer, mais sa gloire date des années De Gaulle, Pompidou, Giscard. Poulidor, commençons par là, c'est une des photos les plus célèbres de l'histoire du sport français. Tour de France 64, ascension du Puy-de-Dôme, épaule contre épaule avec son rival, Anquetil en jaune, Poulidor et son éternel maillot Mercier, la visière de la casquette relevée. Il y a 5 ans, juin 2014, nos confrères de France Bleu Pays d'Auvergne lui demandaient encore de raconter le Puy-de-Dôme.
Le Puy-de-Dôme, bon, c'est rentré dans la légende. Ça s'est passé il y a 50 ans. Mais il ne se passe pas une journée sans évoquer ce Tour de France 64 et ce duel mythique du Puy-de-Dôme. D'ailleurs, lorsqu'on pose la question qui a gagné en haut du Puy-de-Dôme, tout le monde, il y a 80% qui répondent Poulidor. Alors que j'ai fait troisième seulement de l'étape. Anquetil a perdu près de 50 secondes en 900 mètres. Nous étions épuisés tous les deux. Ça a été un moment fort, oui. Mais c'est pas là que le Tour de France est perdu pour moi.
C'est là qu'est la légende.
C'est là qu'est la légende et cette légende restera.
Alors allons-y pour la légende, alors qu'Emmanuel Macron salue les exploits de Poulidor, son panache, son courage qui resteront gravés dans les mémoires. Jérôme Cadet, Poulidor, très longue carrière, beaucoup de victoires et des podiums.
Oui, une carrière démesurée, 17 ans, de 1960 à 1977. Raymond Poulidor, c'est d'abord une énigme. 8 fois sur le podium du Tour, 7 fois vainqueur d'étape, mais jamais un seul jour en jaune. La faute à la malchance, à des sautes de concentration aussi, comme lorsqu'il oublie un tour de circuit à l'arrivée à Monaco sur ce fameux Tour 64. La faute surtout aux deux grands champions qui furent ses adversaires, Jacques Anquetil et Eddy Merckx. Poulidor, c'est aussi un paradoxe, ce surnom, l'éternel second, un perdant aux plus de 180 courses gagnées, dont le Tour d'Espagne et Milan-San Remo, l'un des coureurs les mieux payés de son époque. Poulidor, c'est enfin et surtout une exceptionnelle popularité, jusqu'à 3000 lettres reçues par jour chez lui aux plus belles heures de sa carrière, et encore des dizaines d'autographes signés chaque jour lors du dernier Tour de France. La popularité, pour reprendre le mot de l'écrivain Antoine Blondin, qui était devenu son voisin dans le Limousin, sa région, qui lui rendra hommage en juillet prochain. L'étape du Tour passera devant chez lui, à Saint-Léonard-de-Noblat. Elle s'achèvera en Corrèze, à Saran, le fief de Jacques Chirac.
Bonjour Bernard Thévenet.
Bonjour.
Deux fois vainqueur du Tour de France 75-77, puis commentateur du cyclisme. Vous avez couru en même temps que Poulidor. Quel souvenir de coureur avez-vous?
C'était un coureur très très courageux qui faisait très bien son métier. Il faisait jamais d'écart, jamais de folie.
Oui.
C'est un coureur qui aimait vraiment profondément le cyclisme.
Poulidor, Anquetil, portrait croisé, au fond, une bonne manière de dresser le portrait de Raymond Poulidor, c'est de le comparer avec Anquetil. Qu'est-ce qui les différenciait? Qu'est-ce qu'ils avaient en commun, ces deux-là?
Bon, je ne sais pas, ils avaient beaucoup de choses en commun, finalement. Parce que c'était vraiment très différent l'un et l'autre. Poulidor était beaucoup plus économe économe dans le double, enfin, autant de ses sous que de ses efforts. Alors que Anquetil était à je sais pas, peut-être mesuré aussi, mais différent. Anquetil était peut-être un peu plus, comment dire, un peu plus, il était moins réservé que Raymond. Raymond était assez réservé. Il était beaucoup plus attentiste. Alors qu'Anquetil était peut-être, n'était pas vraiment un attaquant non plus, Anquetil, mais il savait peut-être un peu plus profiter des beaux coups, ou plutôt Anquetil savait plus créer les bonnes occasions que Raymond, lui, les attendait.
La fameuse popularité de Poulidor, Bernard Thévenet, il a su l'entretenir aussi au fil des années quand il était coureur, et puis après, c'est aussi un travail d'être populaire en quelque sorte.
Oui, c'est un travail, mais je pense que c'est... Bon, Raymond a eu quand même pas mal de petites malchances dans sa vie. Il a eu des crevaisons au mauvais moment, ou des chutes bénignes à des mauvais moments, enfin des chutes parfois graves, hein, comme celle qu'il avait eu à Albi en 68, mais je pense que beaucoup de Français s'imaginent un petit peu comme lui, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a de la malchance, il y a des choses qui ne tournent pas comme on a envie, et Raymond a été pour beaucoup de gens un peu une sorte de modèle, donc beaucoup de gens se sont identifiés à lui, et ils sont devenus ses supporters. Et ils le sont restés.
Parmi oui, allez-y, pardon.
Oui, et puis comme on a dit qu'il était l'éternel second, finalement, ouais. C'est devenu un peu un nom commun, quelqu'un qui est toujours deuxième, qui est toujours battu de quelques longueurs, de quelques voix, par exemple en politique, on dit tiens, c'est le Poulidor de la politique, c'est le Poulidor de ceci, de ça.
Parmi les réactions ce matin, il y a celle de Romain Bardet qui souligne à quel point Poulidor incarnait le cyclisme populaire, proche des territoires. Est-ce que le cyclisme, depuis Poulidor, ce sera ma dernière question, Bernard Thévenet, est-ce que ça a beaucoup changé, ou au fond, est-ce que cette popularité, cette simplicité, le côté direct du cyclisme est toujours le même aujourd'hui qu'à l'époque de Poupou?
Oh non, il est forcément différent. Hein. Le cyclisme a évolué comme a évolué la société, donc pas du tout la même façon de voir les choses maintenant comme on les voyait il y a 40 ou 50 ans. Hein. Donc c'est sûr que ça a beaucoup changé dans la forme, mais dans le fond, c'est resté la même chose. Hein, dans le cyclisme, ce qui est dur, c'est pas tellement contrairement à ce qu'on pense, c'est pas tellement le relief, c'est pas de passer les montagnes, ce sont les adversaires qui créent les problèmes. Et ça, c'était pareil il y a 50 ans comme maintenant.
Et Poulidor a eu deux sacrés adversaires, et même trois. Il y a eu vous, il y a eu Merckx et il y a eu Anquetil. Merci beaucoup, Bernard Thévenet, d'avoir pris quelques minutes pour nous parler de Raymond Poulidor.
Je vous en prie, Raymond le mérite.
Et ceux qui en parlent le mieux de Raymond Poulidor, ce sont, comme vous, les cyclistes. Alors, il y a les pros, et puis il y a les amateurs. On est allé à la rencontre de ceux qui tournent sur les anneaux de Longchamp, dans le bois de Boulogne, ce matin. C'est au micro de Marcip Saïd.
Il a été, je crois, bien aimé de tous les Français, par son côté rustique, franc. On lui a collé peut-être injustement le qualificatif d'éternel second, mais il était quand même très très brillant, bagarreur.
Poulidor, c'est une force de la nature. Hein. C'est il emmenait des braquets en montagne. En dehors d'être un champion, c'était quelqu'un d'assez sympathique. Quoi. Puis tout en étant professionnel, avait un esprit amateur.
Moi, je garde un beau souvenir, parce que c'était... souvenir de compétition forcenée contre son concurrent Anquetil. Tenez, par exemple, ici, moi, ce que je suggérais, c'est qu'au lieu que cette route s'appelle route de Sèvres à Neuilly, on l'appelle la rue Raymond Poulidor. Hein ?
Voilà pour ces quelques paroles de cycliste en région parisienne ce matin. Et puis Poulidor, c'est aussi un roman photo. Le Puy de Dôme, bien sûr, mais aussi Poupou avec Dalida, avec Jacques Chirac, avec Merckx, avec Anquetil. Galerie d'images édifiantes ou amusantes, c'est à suivre sur franceinter.fr.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
C'est désormais inscrit dans notre calendrier commun, deux jours après les cérémonies du 11 novembre, celles du 13 novembre. Les attentats les plus sanglants qui aient jamais touché la France, le Stade de France, les terrasses de café, le Bataclan, 130 morts en 2015. Quatre ans après, matinée de recueillement sur les lieux des attaques, cela se termine en ce moment même à la mairie du 11e arrondissement de Paris, tout près du Bataclan, pas loin du Carillon, du Petit Cambodge, de la Bonne Bière, du comptoir Voltaire et de la Belle Équipe. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Rémi, vous avez assisté à ce qui est devenu un rituel au fond.
Oui, la tristesse, la douleur, l'indicible sont encore là pour beaucoup de victimes, comme si c'était hier, confient certains. Pour Olivier Laplot, vice-président de l'association de victimes Life for Paris, rescapé du Bataclan avec son épouse, cette journée est aussi placée désormais sous le signe de l'échange et de la vie.
C'est surtout, je pense, devenu un moment de retrouvailles. Ce groupe de victimes qui se retrouvent tous ensemble, qui ressent à la fois la même douleur et la même joie d'être ensemble et de voir les uns et les autres se poser la main sur l'épaule, s'embrasser. On a tous l'occasion d'échanger tout au long de l'année avec les doutes, les conseils. C'est finalement vraiment aujourd'hui en particulier que cette réunion de famille prend toute sa dimension.
Alors quelques habitants des officiels accompagnent les membres des associations Life for Paris, c'est 13-11-15 Fraternité et Vérité, réunis en ce moment devant la mairie du 11e arrondissement. Deux chansons ont été choisies, Tears in Heaven d'Eric Clapton et Everybody Hurts du groupe REM, des symboles pour rappeler que la douleur est encore vive, mais la mémoire se construit aussi. Un olivier est installé près de la scène, ce sera le premier élément du futur jardin mémorial dont le principe a été voté hier par la mairie de Paris. C'est ce qu'explique Alexis Lebrun, porte-parole de Life for Paris.
Le mémorial en question se prendrait une forme assez verte avec un jardin, un espace qui serait probablement assez important. Mais je pense que oui, le jardin va, dans sa symbolique, il va aussi évoquer le cycle de la vie et une certaine sobriété, je pense aussi, comme les commémorations qui sont faites chaque année.
Le lieu n'est pas encore trouvé. Sur scène, tout à l'heure, les présidents des deux associations se sont souhaités du courage pour l'année à venir, particulièrement pour préparer l'épreuve que sera le procès des attentats prévu pour 2021.
Clapton, pour rendre hommage aux victimes du 13 novembre, c'était Rémi Brancato en direct pour France Inter avec Marcos Darras. Alors, quatre ans après ces attentats, le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nounou, était ce matin l'invité de France Inter et Sophie Parmentier. Il a fait le point sur l'état de la menace terroriste aujourd'hui.
Oui, une menace terroriste qui reste à un niveau élevé. Chacun doit rester vigilant, prévient le secrétaire d'État à l'intérieur, même si cette menace a évolué. Ce que les autorités redoutent le plus, ce ne sont plus les attentats projetés depuis la Syrie ou l'Irak avec des commandos entraînés tels que ceux qui nous ont frappés le 13 novembre 2015. La pire menace vient désormais de notre propre pays, rappelle Laurent Nunez.
Maintenant, on est sur une menace endogène d'individus qui n'ont plus forcément le lien avec l'État islamique, compte tenu de la déliquescence de l'État islamique sur zone. C'est cette menace-là qu'on craint le plus, la menace dite endogène, difficile à détecter parce que parfois la radicalisation se fait de manière expresse. Il faut à ce moment-là être en capacité de le détecter, mais c'est ce que font dans la majorité des cas nos services de renseignement.
Et le défi majeur pour les services de renseignement concerne les 500 terroristes islamistes incarcérés et aussi le millier de détenus de droit commun radicalisés. Les sortants de prison sont surveillés de près, assure la place Beauvau, qui tente aussi d'éviter la dissémination de djihadistes échappés de camps ou de prison en Syrie. Quant à ceux qui vont être expulsés par la Turquie, eh bien c'est classique. 250 djihadistes français sont ainsi rentrés et ont été judiciarisés depuis 2014, a rappelé Laurent Nunez.
Et Laurent Nunez qui condamne les violences hier lors des manifestations étudiantes devant le ministère de l'enseignement supérieur, grille arrachée, mais aussi à Lyon et Lille, une conférence de François Hollande empêchée, des livres déchirés, condamnation des violences, même s'il dit comprendre l'émotion après le geste terrible d'un étudiant qui s'est immolé par le feu devant le Crous de Lyon, les Crous qui abritent notamment des logements étudiants. Alors au-delà des violences, le mot d'ordre de ces manifestations hier, c'était la précarité. Y a-t-il une dégradation de la situation des étudiants en France ? Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Quels chiffres, Maxime, quelles données pour mesurer la précarité des étudiants ?
Eh bien les données sur lesquelles on peut s'appuyer, notamment sur celles des syndicats étudiants comme la FAGE. La FAGE pour qui 20% des étudiants vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Et selon une enquête récente de l'Observatoire de la vie étudiante, seul un étudiant sur deux, allez 45% exactement, déclare avoir assez d'argent pour couvrir ses besoins mensuels. Il y a le loyer, les repas, les transports bien sûr. Selon l'UNEF, autre syndicat étudiant, le reste à charge mensuel des jeunes dans l'enseignement supérieur s'élève à 837 euros par mois. Une sacrée somme. Le reste à charge étant le montant qui reste à payer tous les mois après avoir perçu l'ensemble des aides possibles.
Maxime, dans l'histoire de cet étudiant qui a tenté de mettre fin à ses jours, il y a la suppression de sa bourse après 2 échecs en licence. Quelles sont les règles pour obtenir une bourse?
Les règles, elles sont strictes, hein, Bruno. Ces aides étant attribuées en fonction des critères sociaux d'abord. Seuls peuvent les toucher les étudiants les plus précaires et donc, dans un temps limité, un seul redoublement toléré dans un cycle de licence ou de master. Au second redoublement, l'étudiant perd ses droits. C'est donc ce qui s'est passé avec ce jeune Lyonnais qui s'est immolé vendredi dernier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces aides sont plafonnées, pouvant aller d'une 100 euros à 550 euros maximum, pas assez pour couvrir tous les frais, et qu'elles excluent aussi de fait les jeunes issus de la classe moyenne, bien obligés de travailler comme les boursiers, souvent beaucoup à côté pour subvenir à leurs besoins. Phénomène qui s'accentue au fil des ans pour les syndicats étudiants.
Et ce matin, le jeune homme est toujours entre la vie et la mort. Son université, celle de Lyon 2, était à nouveau bloquée et fermée après donc des actions de blocage. La demande de remise en liberté de Patrick Balkany est rejetée. Décision de la Cour d'appel de Paris ce matin. Le maire de Levallois a été condamné à de la prison ferme 2 fois ces dernières semaines. 4 ans pour fraude fiscale en septembre, 5 ans pour blanchiment aggravé le mois dernier. Une première demande de libération avait été acceptée, pas cette fois-ci. Pourquoi, Charlotte Piret?
La Cour d'appel a cette fois estimé qu'interdire Patrick Balkany de se rendre à l'étranger en Ile-de-France et de le contraindre à verser 500 000 euros de caution ne suffisait pas à garantir le bon fonctionnement de la justice. Maître Antoine V, avocat de Patrick Balkany, au micro de Florence Turm.
Alors que le jour tombe à Hong Kong, la ville s'apprête à une nouvelle nuit de violence.
Maître Antoine V, donc, au micro de Florence Turm, qui expliquait que la justice a décidé qu'il y avait un risque, la Cour d'appel a décidé qu'il y avait un risque sur les témoins. En réalité, selon une source judiciaire, les avocats de Patrick Balkany ont eux-mêmes annoncé vouloir faire venir des témoins lors du procès en appel. Il importe qu'ils soient en mesure de s'exprimer en toute liberté et ne subissent aucune pression, a donc décidé la Cour d'appel dans sa décision. Résultat, un maintien en détention pour Patrick Balkany, qui va très mal et a déjà perdu 20 kilos, s'insurge son épouse. Ses avocats, eux, ont annoncé déposer une nouvelle demande de remise en liberté suite à ce rejet, ainsi qu'une demande de modification du montant de la caution de 500 000 euros, qui n'a, à ce jour, pas été versée.
Merci Charlotte Piret. Si nous étions à un tournant, si nous étions en train de laisser quelque peu au garage nos voitures. Les Franciliens utilisent moins leurs voitures qu'il y a 10 ans. C'est la conclusion d'une étude qui paraît ces jours-ci et l'une de ses auteurs est notre invitée. Bonjour Laurence de Brinca.
Bonjour.
Directrice des études d'Île-de-France Mobilité. Alors quelques chiffres qui attestent que les Franciliens sont en train de délaisser quelque peu la voiture.
Alors effectivement, ils la délaissent puisque par rapport à 2010, oui. En 2018, ils utilisent à 5% de moins pour leur déplacement quotidien la voiture. Et dans le même temps, évidemment, les autres modes de déplacement ont augmenté, et notamment les transports en commun qui, eux, ont connu une croissance de 14%.
Donc, ceux qui étaient en voiture passent dans les métros, dans les bus, dans les RER?
Alors, dans les métros, les bus, les RER, mais aussi à pied, parce que les déplacements à pied augmentent, et les déplacements à vélo aussi. Donc, c'est vraiment un report, on va dire, de la voiture vers l'ensemble des alternatives que l'on a constatées ces dernières années en Île-de-France.
Ce que vous avez mesuré, hein, précisons-le, sont les déplacements personnels en semaine. Est-ce que vous avez un détail des populations qui abandonnent leur voiture? Est-ce que c'est le cas de tout le monde ou est-ce qu'il y a des personnes en particulier, des types de métiers ou de profils?
Alors cette évolution de la voiture, elle est liée effectivement à déjà des évolutions démographiques de l'Île-de-France. C'est vrai qu'on est une région qui vieillit aussi, hein, ouais. Beaucoup moins que d'autres régions françaises, mais malgré tout, voilà, les personnes très âgées, qui sont plus nombreuses, utilisent peu leur voiture. C'est aussi une évolution qui est liée à la nature des emplois. On a aujourd'hui plus d'emplois de cadres, hein, une augmentation des emplois de cadres, alors que dans le même temps, des emplois d'employés ou d'ouvriers ont plutôt diminué en Île-de-France. Et les cadres ont bien souvent leur emploi qui est situé dans des zones qui sont bien desservies par les transports en commun. Voilà, donc c'est évidemment une explication importante. Après, cette baisse, elle est évidemment plus importante dans le cœur de l'Île-de-France, notamment en proche couronne. Et en grande couronne, on va rester effectivement sur un territoire qui est encore très, très évidemment dépendant de la voiture, parce parce que les offres alternatives y sont moins développées malgré les efforts qu'on a pu faire en la matière.
Ça veut dire qu'il y a moins de bouchons en région parisienne ?
Alors c'est pas tout à fait ça, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, hein, ce qu'on mesure, ce sont les déplacements personnels, et les routes, elles sont occupées évidemment par beaucoup d'autres types de déplacements, ne serait-ce que les bus, que les deux roues motorisées, et puis aussi les autocars, les livraisons, les taxis, les VTC, et donc au total, effectivement, c'est un peu compliqué d'en tirer une conclusion qui serait sans doute hâtive sur cette baisse des bouchons.
Vous avez parlé de la démographie, est-ce qu'on sait s'il y a des mesures en particulier qui font baisser l'utilisation de la voiture, soit des mesures répressives de cet ordre-là, soit le développement d'autres formes de transport?
Ce qui est le plus important, c'est vraiment le développement des alternatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Franciliens ont effectivement, leur mentalité, elle a évolué. C'est-à-dire que quand ils ont des alternatives qui sont efficaces par rapport à la voiture, ils vont les prendre. Et donc, c'est bien parce qu'on a développé l'offre de transport en commun, parce qu'on a amélioré la qualité de service, parce que dans le même temps, on a aussi développé la possibilité d'utiliser un vélo. Il y a de plus en plus de pistes cyclables. Île-de-France Mobilité lance, par exemple, un service de location de vélo à assistance électrique longue durée. Donc, vous voyez, c'est toutes ces alternatives qui font qu'on peut, aujourd'hui, délaisser sa voiture et avoir une mobilité plus durable.
Merci, Laurence de Brinca, d'être venue nous donner quelques détails sur cette étude qui paraît ces jours-ci.
Merci.
Après 6 mois de manifestation relativement pacifique pour la démocratie, la contestation à Hong Kong prend un tour nettement plus violent depuis le début de la semaine. Blocage de la métropole, presque toutes les lignes de métro sont à nouveau fermées aujourd'hui. Beaucoup d'écoles et centres commerciaux avaient portes closes et des scènes de pillage, de vandalisme, d'affrontements. À l'université chinoise de Hong Kong, des étudiants de Chine continentale plient bagages, peur pour leur sécurité. Florence de Changy.
Alors que le jour tombe à Hong Kong, la ville s'apprête à une nouvelle nuit de violence. Après les heurts qui ont eu lieu à la prestigieuse université chinoise de Hong Kong dans les nouveaux territoires la nuit dernière, la police a estimé lors de sa conférence de presse quotidienne que l'université était devenue une usine d'armes. La police affirme avoir été la cible de 400 cocktails Molotov et également de flèches tirées à l'arc par les manifestants. De son côté, elle a indiqué avoir tiré plus de 1500 cartouches de gaz lacrymogène et presque autant de balles en caoutchouc au cours de la seule journée de mardi. À Central, après de nouveaux événements, d'abord paisibles au cours de la pause déjeuner du quartier de la finance, la devanture de la banque de communication, l'une des plus grandes banques chinoises, a été fracassée. Les rues sont en train d'être quadrillées de longs bambous d'échafaudage. Le Jockey Club a annulé les courses hippiques de ce soir et le gouvernement a annoncé la fermeture des écoles jeudi. L'obstination du gouvernement à ne gérer cette crise que par la répression, sans proposer aucune solution politique, pousse les manifestants au désespoir et incite les plus radicaux à se déchaîner. Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
Et alors que la liste des pays où la foule manifeste pour plus de droits, plus d'égalité ou de meilleures conditions de vie, alors que cette liste s'allonge chaque semaine, voici un pays où la répression est particulièrement féroce, c'est l'Égypte. La Commission des droits de l'homme de l'ONU regarde cela de très près aujourd'hui. C'est un examen régulier de la situation des droits de l'homme dans le pays. Après des manifestations anti-régime fin septembre, plus de 4400 personnes ont été arrêtées en Égypte. Et un mois et demi plus tard, Martin Roux, l'immense majorité est toujours détenue arbitrairement.
Mohamed a passé 2 semaines dans une cellule surchargée, arrêté au soir des premières manifestations. Il a les yeux bandés lorsqu'à plusieurs reprises, il est interrogé et torturé.
Ils nous ont pris par groupe de 5. Ils nous ont attachés les mains dans le dos et nous ont suspendus par les jambes. On est resté comme ça dans cette position, la tête en bas, pendant 2 ou 3 heures.
L'immense majorité des personnes arrêtées est maintenue en détention provisoire. Accusée arbitrairement de terrorisme, cet avocat tente de les défendre, mais il est systématiquement empêché dans son travail.
Nous avons peur de parler. Nous sommes menacés. Et certains de nos confrères ont même été arrêtés dans l'exercice de leur profession. Vraiment, nous avons peur.
Alaa Abdel Fattah, figure de la révolution de 2011, a de nouveau été placé en détention après 5 ans déjà passés en prison. Sa sœur, l'activiste Mona Saif, constate un niveau de violence inédit.
Je pense qu'il y a une intention très claire de briser toute cette génération et d'en faire un exemple pour intimider les jeunes générations.
Pour Alaa et pour nous tous, ajoute la jeune femme, on ne peut pas les laisser faire. Le Caire, Martin Roux, France Inter.
C'est un portefeuille à la Commission européenne dont l'intitulé avait suscité la controverse. portefeuille du commissaire à la protection du mode de vie européen en charge des migrations. On le changera légèrement, on parlera désormais de promotion du mode de vie européen. Malgré les retards et les surcoûts, EDF n'a pas l'intention d'abandonner la centrale nucléaire nouvelle génération EPR. Le patron de l'entreprise annonce ce matin travailler à un nouveau modèle. Nous sommes mercredi, jour des sorties cinéma. Bonjour chère Eva Bettan.
Bonjour.
À l'affiche cette semaine, le J'accuse de Roman Polanski, Les Misérables de Lajli, Le Mans...
C'est la semaine prochaine Les Misérables, pardon.
Ah bon, ah bah alors je l'oreille tout de suite. Le Mans 66, là j'ai bon, avec Christian Bale et Matt Damon.
Voilà.
Et puis Eva, Little Joe de l'Autrichienne Jessica Hausner. Alors c'est un film de science-fiction mais sans effets spéciaux dans tous les sens. Un mot de la réalisatrice d'abord.
Oui, alors il faut commencer peut-être par ça. Jessica Hausner, elle est autrichienne, elle a 47 ans, c'est une enfant chérie du Festival de Cannes qui depuis 20 ans montre ses films depuis son court-métrage. Elle a travaillé avec Michael Haneke sur le terrible Funny Game. Il ne faut pas pour autant l'associer au pessimisme radical de ses compatriotes Haneke ou Ulrich Steidl qui font de la vivisection de la société autrichienne. Elle, c'est pas une enfant de cœur, elle joue sur le trou, mais sa manière est plus douce, elle est distanciée. Nous en arrivons à Little Joe, qui est donc son essai dans la science-fiction. Les films de science-fiction vous racontent toujours que le futur, ça va être horrible. Le monde va être atroce. Et elle parle d'une chose sympathique, toute petite, mignonne même. Une scientifique a mis au point une plante qui rend heureux. Mais alors pourquoi les gens qui la côtoient changent de caractère? Est-ce qu'elle rêve? Est-ce que c'est du fantasme? Est-ce que c'est la réalité? Jessica Hausner n'est pas pessimiste face à l'avenir, mais elle n'est pas béate pour autant.
Nous ne savons pas ce que le futur nous réserve. Peut-être que ce qui nous fait très peur ne se révélera pas si terrible que cela. La suite de la proposition étant que le danger viendra peut-être de choses que nous n'avions même pas imaginées. C'est aussi un film sur l'illusion du contrôle. Le résultat de nos actions sur l'avenir ne peut être exactement ce que nous souhaitions.
Alors elle conduit tout un univers construit avec peu de choses, un laboratoire des plantes qui ont des petites plantes qui ont un toupet rouge, une scientifique qui a une coiffure au bol atroce de la même couleur rouge que les plantes. Il y a un côté conte, il y a un côté humour et en même temps il y a des vraies questions. Comment on connaît le vrai et le faux? Est-ce que c'est pas un film aussi sur la maternité? Il faut laisser partir ses enfants et la plante c'est comme un enfant. Peut-être qu'elle veut son libre arbitre. Je ne sais pas, mais s'il est en vente, je vous l'offrirai.
Ça s'appelle Little Joe, un tout petit mot du Polanski. Eva, vous en avez très bien parlé ce matin dans le journal de 7h30. Juste, vous dites, c'est un film important.
Oui, parce que ça fait partie des films qui continuent à travailler dans la tête. Quand la lumière s'est rallumée, vous continuez à réfléchir. C'est l'histoire, l'affaire Dreyfus, et en même temps, ça ouvre tout un tas de questions. Et ça, c'est par les moyens du cinéma.
Et on peut réécouter votre critique dans le journal de 7h30 sur franceinter.fr. L'actualité de la littérature, les prix littéraires, le prix interallié pour Karine Thuil et son livre Les choses humaines aux éditions Gallimard. Et puis le nouvel album de Renaud sort dans quelques jours, 29 novembre. Il s'appelle Les mots et les enfants d'abord. Un premier extrait qui s'appelle « Les animaux pour le plaisir de parler comme un gamin ».
Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux. J'ai une passion depuis peu pour les beaux phénix.
Voilà les animals, Renaud, qu'on entendra plus longuement dans les semaines à venir et qui dit à nos confrères d'RTL « Je vais bien, contrairement à ce qu'ont pu écrire les écrivaillons de la presse People ».
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Sébastien Léas.
Encore quelques averses cet après-midi entre le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, en Nouvelle-Aquitaine, le long des Pyrénées et près de la Manche. Sur les Vosges et le Jura, il neige des 700 à 900 mètres d'altitude et sur les Pyrénées, la limite pluie-neige se situe vers 1400 mètres. Une nouvelle perturbation pluvieuse à bord de la Bretagne s'accompagnant d'un renforcement du vent. Cette perturbation va d'ailleurs traverser l'Hexagone d'ouest en est cette nuit. Sur le reste du pays, l'après-midi est plutôt calme, mais avec beaucoup de nuages élevés. Au sud de la Loire jusqu'aux plaines du sud-ouest, à la vallée du Rhône et à l'ouest du Var, ces nuages élevés sont assez épais, voire dense, alors qu'entre les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, l'après-midi se passe sous le soleil. Les températures maximales sont en baisse et affichent 6 à 13 degrés en général et 15 à 17 degrés entre la Corse et la Côte d'Azur.